Apparemment, selon le site web, j'ai dû dire que j'avais donné des conseils pratiques, mais bon, on va discuter plutôt ensemble des conseils pratiques, parce que je pense que je ne suis pas bien placée pour donner des conseils. Premièrement, parce que je pense que j'ai écrit la thèse la plus courte du monde.
100 pages.
100 pages.
Je pense que c'était 120 pages avec toutes les figures et les images. Hein. C'était vraiment, je pense, presque le strict minimum. Donc, en sciences de la nature, on peut écrire beaucoup moins, parce que finalement, c'est les résultats qui parlent. Et je suis tellement pas littéraire que ça me complexait beaucoup, toute l'idée de devoir écrire. Mais il y a aussi une énorme différence pour la rédaction d'une thèse entre donc la recherche expérimentale. Donc, et une recherche plutôt documentaire, voilà. Je pense que tu avais dit ce matin, à la fin de la première année, qui t'amène 300 pages ou quelque chose. Voilà. Alors, nous, à la fin de la première année, on a juste notre livre de résultats avec tout ce qui n'a pas marché. On n'a pas commencé encore à écrire. Donc oui, pour moi, c'était 3 ans d'expérience. Et 4 mois d'écriture, de rédaction de la thèse. Donc, on va commencer d'abord à mettre nos idées en commun. Donc, selon vous, quel conseil faut-il donner pour bien écrire sa thèse, pour réussir à la faire, la compléter à temps? Quels sont les conseils pratiques que vous donnerez, que vous avez entendus ou, voilà. Comment faire?
Oui, un truc qu'on m'a conseillé, et je trouve que c'est une bonne idée. À chaque fois que j'ai un bout de résultat ou d'avance, tout taper à l'ordi
Oui.
pour le voir, parce que sinon, après, au bout de 3 ans, il faut se rappeler de tout ce qu'on a fait. Ah, c'est mal parti. Dès qu'il y a un petit bout de résultat, taper à l'ordi, même si c'est un peu long, pour après s'en souvenir.
Tu as des conseils, Marguerite? Tu viens juste de terminer, donc tu peux nous donner des conseils.
Non, mais après, c'est pas forcément la façon à suivre. En tout cas, moi, j'ai eu des conseils de poste doctorant. Ils me disaient de rédiger d'abord la conclusion et ensuite de rédiger la partie matériel et méthode, parce
Oui.
qu'on explique le matériel utilisé, les méthodes utilisées et la conclusion pour. Juste avoir les résultats principaux et ensuite écrire l'introduction. Et moi, en fait, j'ai pas fait comme ça. J'ai écrit linéairement introduction, matériel, méthode et conclusion. C'était par rapport à la rédaction ou c'est.
Non, c'est un peu plus général aussi, donc tu peux aussi donner d'autres conseils. Voilà, c'est un peu plus large, réussir sa thèse, s'il y a d'autres conseils pratiques.
Moi, je peux dire du côté des membres du jury, les choses les deux plus importantes, c'est un, le plan, et deux, la bibliographie. Le reste, c'est secondaire. Comment c'est construit, c'est-à-dire le squelette, si c'est cohérent, la méthodologie, etc., et la bibliographie. Et quand ces deux trucs-là sont solides, le reste, ça suit.
Bon, en sciences de la nature, ils vont quand même beaucoup examiner les résultats parce que moi j'ai eu à produire, parce que je n'avais pas mis dans la thèse tous les résultats primaires, hein, les données primaires. J'avais fait le bilan parce qu'il y avait beaucoup de données primaires en fait. J'avais fait le tableau de résumé et la personne a voulu voir toutes les données primaires. Donc ils vont quand même aller attaquer vraiment les résultats, voir s'ils sont justifiés ou
Bien
non.
sûr, il y a le contenu, hein, mais la cohérence du travail, hein, pour que ce soit très très cohérent. Parce que donc, si bien sûr, tu as des résultats partiels comme ça, mais donc le plan, le squelette, ça va consister à construire. Les choses peuvent être intéressantes par petits morceaux, mais en réalité, c'est la démonstration qui. Et puis le fil rouge, la cohérence, etc. Donc ça vient du plan.
On parlait de philosophie, quelque chose se rapproche de ce qu'a dit Edwin. L'équivalent des travaux dont il faut très vite rédiger les fruits pour ne pas les perdre dans la mémoire. L'équivalent pour un travail philosophique, c'est ce qu'on appelle des notes de recension, c'est-à-dire des résumés commenter et éventuellement commenter d'articles, de chapitres, de livres, comme ça au fur et à mesure de leur lecture, et les commentaires étant évidemment infléchis, orientés par la problématique qu'on veut résoudre. Et puis ensuite, ça se structure autour justement d'une problématique formulée le plus clairement possible, à partir de laquelle un cheminement est construit pour essayer de résoudre cette problématique. Et ce n'est qu'à partir de ça qu'un plan peut être alors proposé. Et finalement, je rejoins Marguerite pour le fait que, aussi dans un travail de philosophie, de manière un peu paradoxale, on finit par l'introduction.
Oui, là, tout dépend. Donc les recensions, ça va avec les citations. Et le grand écueil, c'est que c'est bien mettre toutes les références, parce que si 3 ans après, oui, il vous manque le numéro de la page, là, vous passez une semaine à rechercher la citation. Et c'est très, 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 très important, les citations. L'exactitude des citations, parce que les jurys vérifient.
Oui. Et moi, j'avais fait, parce que j'étais tellement complexe, l'exemple n'a pas suivi. Moi, j'étais tellement complexée sur le fait que je devais écrire cette introduction, donc toute cette résumé de la Bible, que je voulais juste, j'ai fait toute ma lecture, bon, en mon cas, c'était vraiment, c'était les articles, hein. Et l'avantage, c'est que tu as juste à citer l'article, pas la page, parce qu'ils sont 3 pages, les articles. Donc, mais après, donc, j'ai tout lu, après, j'ai tout écrit, et après, j'ai dû aller chercher quelle était la référence pour chaque
article. Voilà,
c'était
ça,
une bêtise totale. Il fallait mieux faire... Et en plus, j'ai fait ça quand j'étais à la rédaction. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de maîtriser vraiment les bibliothèques et d'avoir déjà, juste pour la science, souvent c'est juste une ligne. Ça montre ça, et ça c'est la référence. Ça montre ça, ça c'est la référence. Parce que après, courir après, c'était une vraie perte de temps. Mais après, moi j'écrivais les maths et méthodes le soir, par exemple. Parce que tu n'as pas à réfléchir et parce que ça ne t'empêche pas de dormir après quand tu écris ça. Bon, en science, parce que c'est bon, tu copies juste chez les autres thèses ou autres papiers, méthode que tu as utilisée. Alors, on va en fait parler de toute autre chose. Hein. Parce que, ouais, je ne vais jamais aller dans le bon sens, faut dire.
Là, t'es
en fait.
Oui.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de conseils à donner, plus de choses à réfléchir pour la thèse et aussi pour la carrière après, pour réussir. Et même pour la rédaction, d'avoir la force et de pouvoir continuer et dans la recherche. J'ai trouvé ce livre disponible sur ce site-là qui est marqué en bas. Donc, sur ce sujet de la résilience et la résistance, donc, plusieurs parlent de ce que ça veut dire, cette résilience. Donc, la capacité de rebondir après les échecs, de persévérer. C'est aussi à s'adapter aussi à l'environnement. Et, voilà. Et donc, dans ce livre, il fait une liste très intéressante de ce qu'il faut pour réussir dans la recherche ou dans le milieu académique de règles générales et plus long terme aussi. Alors, il dit, connaître vos objectifs, quand et comment les atteindre, construire des liens avec ceux qui veulent notre réussite, même si on n'est pas toujours en accord, être conscient de votre état intérieur et apprendre à le maîtriser, l'adaptation à l'échec ou le rejet pour améliorer votre recherche, avoir une vision intégrée et stratégique de votre travail. Donc, ça revient à ce que tu as dit sur le plan et les stratégies cohérentes. Adopter une attitude positive et optimiste. Être un apprenti et développer de nouvelles compétences. Être un entrepreneur et prendre des risques. On a parlé de prendre des risques ce matin. Avoir une perspective plus large. On a aussi parlé de ça. Être plus préoccupé par l'avenir que le présent et se servir du présent pour y arriver. Veillez sur votre état physique, un bon régime alimentaire, pratiquer un sport, bon sommeil, sont essentielles pour gérer une surcharge de travail et de stress. Être modeste, mais avoir confiance en soi. Avoir une bonne et saine estime de soi. Donner un sens à ce que vous faites. Ceux avec une bonne raison d'être sont plus efficaces. Souvenez-vous des réussites passées pour confronter les problèmes actuels. Ne vous écroulez pas sous le stress. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Cultivez votre sens d'humour pour mieux gérer le stress. Cultivez votre patience pour mieux gérer le stress et les changements. Et être prête à changer. Avancer sans oublier les leçons du passé. Donc, on ne va pas regarder toute cette liste, mais je pense qu'il y en a certaines qui sont intéressantes pour nous juste de regarder un peu plus en détail. Donc, c'est là, je pense, que ce sont les plus intéressants pour nous. J'ai un peu changé la façon de les dire. Donc, connaître vos objectifs. Donc, avoir une bonne organisation. Et si vous n'avez pas une bonne organisation, si vous n'êtes pas naturellement bien organisé, vous demandez de l'aide et lire les livres ou trouver quelqu'un qui vous aide à avoir cette vision claire des choses, parce que c'est essentiel. Connaître les objectifs et comment y arriver. Vraiment faire des plans, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver là. Mais ça va souvent changer. Je sais que pour les manips, on va essayer quelque chose, ça ne va pas marcher, donc on est obligé de changer. Donc on s'adapte et on réévalue tout le temps dans quelle direction la thèse ça va prendre. Mais normalement, on doit faire ça avec le directeur ou directrice de thèse pour nous aider.
Oh. Là.
Adopter une attitude positive. Bon, il y a beaucoup de choses sur la pensée positive. Hein. Et je pense en tant que chrétien, ce qui nous écœure, c'est... Et avec raison, hein, c'est que cette pensée positive qu'on entend, c'est vide. Hein. Il n'y a pas de fondement. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous avons un vrai fondement pour rester positif. Et pour les autres aspects qu'il a proposés, comme donner un sens à ce que vous faites, cultiver la patience. Et on pourrait dire que cultiver le sens de l'humour est aussi cohérent avec une perspective plus confiante, mais aussi reconnaissante, il faut qu'on soit aussi, on développe aussi une reconnaissance. Donc, nous n'avons pas besoin de commencer notre journée en disant « je vais être positive malgré tout », mais dans la prière, en remerciant Dieu pour qui il est, pour tout ce qu'il nous a donné, et en sachant que Dieu a un plan pour nous et qu'il est tout puissant. Donc ça, c'est des bonnes raisons de rester positive. Et dans notre groupe ce matin, on avait dit l'expérience marche, gloire à Dieu. Que l'expérience ne marche pas, gloire à Dieu. Voilà, ça c'était le défi. Est-ce qu'on va dire gloire à Dieu quand ça ne marche pas, parce qu'il nous apprend quelque chose. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques points en commun avec cette liste sur la résilience et les versets sur la croissance spirituelle en 2 Pierre. Il dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, on en parlait ce matin, à la piété l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actives et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les difficultés qu'on puisse rencontrer sont aussi des outils de Dieu pour nous faire grandir, particulièrement l'endurance dans l'épreuve, la piété. Et ceci nous donne aussi un sens à notre travail. Parce que même si nous avons l'impression que notre recherche nous mène nulle part, qui est possible, notre temps n'est pas perdu pour Dieu. Si nous saisissons l'occasion de grandir dans la foi, dans la patience, dans la persévérance. Avoir une perspective plus large. Donc, la femme qui dit « j'ai perdu toute la journée en m'inquiétant de quelque chose hier que personne ne va se rappeler demain. » On peut être vraiment prise par les petites choses et perdre ma perspective plus grande. Donc, il avait dit dans sa liste, donc soyez plus préoccupés par l'avenir que le présent et utilisez le présent pour y arriver. Donc, pas préoccupé dans le sens inquiétude, si jamais ça arrive, si jamais ça arrive, mais se dire non, je vais viser le but. Je vais, ok, ça c'est arrivé, mais maintenant je vise et comment je vais y arriver et de ne pas se perdre. Et bon, je trouve que c'est aussi vrai pour la vie chrétienne en général. La Bible nous exhorte de fixer nos yeux sur Jésus, en Hébreux 12, de chercher les réalités d'en haut, en Colossiens 3. Et en Philippiens, il nous dit, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est très facile de perdre cette perspective, hein, particulièrement si vous travaillez seul. Mais même au labo, on est entouré des gens qui trouvent leur sens et leur identité dans leur travail. Mais nous avons un objectif beaucoup plus grand. Notre foi nous donne vraiment des avantages dans les domaines de trouver un sens, de rester positif, de garder la perspective. Donc, veillez à ne pas gaspiller tout ce que nous avons en Christ. Quel dommage si dans notre vie quotidienne, nous oublions notre vrai objectif et notre espérance certaine en Jésus, et on se comporte comme tout le monde. Mais ce n'est pas facile, parce que nous allons en contre-courant, et donc il faut demander aux amis chrétiens de prier pour nous et veiller toujours à rester fidèles à la prière. Je pense une autre chose qui nous aide de garder la perspective, c'est d'être engagé à l'église où j'ai vu, comme tu as dit en fait ce matin, le fait d'avoir autre chose que le travail, être engagé à l'église, ça nous aide à dormir, à garder les perspectives, de ne pas être complètement focalisé tout le temps sur la recherche et les problèmes. Et, voilà. Mais il ne faut pas essayer de tout faire non plus. Il faut être aussi, je pense, sage dans notre engagement à l'église et d'autres engagements pour pouvoir bien faire notre travail et pour ne pas nous épuiser. Qui nous amène à ce sujet que tu es aussi dans les éléments de ce qu'on avait dit qu'on allait parler ce week-end, cette question de burn-out. Donc là, le monsieur il dit que son boulot lui a coûté sa santé, sa famille et son âme. Est-ce qu'il pourrait y avoir une reçue? Donc, moi, ma question, c'est est-ce que vous, en tant qu'étudiant de thèse, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai risque de burn-out voilà. Est-ce que vous pensez que quand on est en thèse, on est à risque? Oui, non? Comment vous voyez le burn-out? Comment vous pouvez définir le burn-out? À vous. Tu peux nous donner une définition de burn-out, si tu veux, en tant que médecin, Joël.
La reprise française, hein, de se brûler de l'intérieur. Au-delà d'une définition, c'est une forme extrême de souffrance qui peut revêtir des tas d'autres caractéristiques. C'est juste qu'elle est plus intense, mais des auteurs ont essayé, qui ne sont pas français, d'en faire une typologie, avec un test pour quantifier cette fatigue et la caractériser. Mais il me semble qu'une un trait qui m'intéresse moi par rapport à mon travail, c'est le lien entre le burn-out et l'absence, la perte ou l'absence de perspective, l'absence de sens. indépendamment des symptômes du burn-out.
Mm-hmm. Donc la cause, et, en fait. Un des causes.
La cause, au sens de la cause finale d'Aristote. C'est-à-dire, okay. C'est l'objectif. Et là, il me semble que le risque de burn-out dans un travail de thèse est moindre que dans d'autres situations, dans la mesure où, par définition, quand on est dans un travail de thèse, on est dans une situation où on a un projet, on ne se pose pas la question du sens du point de vue de, du but de la direction à suivre. Alors que beaucoup de situations de burn-out dans les soins sont liées à, au fait que la personne concernée ne sait plus à quoi elle sert ou quel est le sens de ce qu'elle essaye de faire ou de ce qu'elle n'arrive pas à faire.
Par contre, il y a quelque chose qui est tout à fait normal, c'est qu'à une phase de la recherche, on est totalement immergé et quasiment noyé dans son truc. Et ça, c'est normal. C'est parce qu'on ne peut pas dominer sa matière tout le temps. Par définition, avant de soutenir une thèse, on cherche. Hein. Et comme tu as dit, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. On lit des trucs pour rien, on en lit trop, et on ne sait plus très bien où on va. Et dans cette phase-là, on a des moments où on est noyé, on est immergé. Ça, c'est au directeur de thèse qui vous accompagne, ça. Hein. Mm-hmm. Mais c'est tout à fait normal, ça, ce n'est pas du burn-out.
Non,
c'est
pas du
burn-out. Phase, c'est une phase difficile où on se dit, mais... J'en suis où là-dedans? J'ai trop de choses. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et on doit élaguer après pour remettre. D'où l'importance du plan. On reprend son plan, on dit bon, en fonction du plan, ça, je l'ai lu, j'ai passé un mois dessus, mais tant pis, ça ne me sert à rien. On élague. Mais il y a des phases comme ça.
Moi, je suis en train de lire un document sur l'épuisement professionnel, parce que c'est justement la définition de burn-out. Il n'y en a pas une vraie définition, elle est trop floue. Donc, il y a un institut en France qui s'en est occupé de redéfinir et de chercher qu'est-ce que ça implique vraiment. Et eux, ils dégagent quatre phases de l'épuisement, comment on aboutit à l'épuisement professionnel. Et la première phase, c'est le plaisir au travail. Et après, le surengagement, quand on en fait trop, parce qu'on en aime ou parce que les autres en profitent aussi, quand on est un bon travailleur. Et puis, ça devient le travail frénétique et compulsif. Et puis, en dernier, l'épuisement, l'écrasement. Je ne sais pas encore fini de lire le document, mais... Et c'est quelqu'un qui me l'a donné parce que il y a des points. Il s'inquiète vraiment pour moi si je pas. Si je suis pas dedans. Donc je crois que oui, il y a un risque.
Parce que là, l'engagement, il est à la fois intellectuel et physique.
Oui.
Comme dans la dépression où on ne dort plus, ça devient un symptôme physique et tout ça. Donc c'est pour ça que l'accompagnement, il doit être à la fois intellectuel et physique.
Et il y a beaucoup de critères où je me dis, bon, en fait, je me reconnais, parce qu'il y a beaucoup de cas où les témoignages, ils disent, ok... Quand ils rentrent chez eux, ils pensent encore à ce qu'ils ont fait au travail, ils n'arrivent pas à découpler, ils ne peuvent pas dormir. Toutes ces choses, bon, ça peut arriver.
Non, c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'elle dit, que c'est bien, la thèse c'est bien, ça remplit votre vie, vous êtes embauché pour ça, mais il n'y a pas que ça non plus.
Ouais.
Il faut garder un petit truc. Bon, le culte c'est déjà ça. Il ne faut pas non plus avoir 4 réunions par semaine à côté. Mais il faut absolument garder quelque chose qui fait penser à autre chose.
Et aussi dire stop au travail. Parce que,
oui, c'est ça.
Moi, c'est vraiment que je suis en train de me surengager puisqu'il y a tellement de choses à faire. Donc je dis, ok, je rajoute. Et je ne me rends pas compte que... C'est trop à un moment donné.
Il y a des choses à faire, mais est-ce qu'il y a des choses à faire qui ne sont à faire que par toi? C'est ça, le, tu vois, le passif impersonnel, les choses sont à faire, mais par qui? Est-ce que c'est forcément que par toi? C'est ça, c'est comme ça qu'on se crée une bonne conscience et qu'on veut charger de manière pas forcément justifiée.
Mais aussi à ne pas être exploité par les chefs du labo ou des autres personnes, parce que parfois, ils profitent.
Je voudrais à cet égard-là dire quelque chose sur la base de mon expérience dans le monde de la santé.
Oui.
Quand les études abordent la question de la cause, c'est-à-dire ce qui entraîne ou ce qui favorise l'épuisement professionnel ou le burn-out, contrairement à ce que indiquerait l'intuition, c'est-à-dire plus je passe du temps au travail et plus je risque le burn-out, eh bien, contrairement à cette intuition-là, le premier facteur reconnu par toutes les études, en tout cas dans le monde de la santé, mais aussi ailleurs, de risque de burn-out, c'est le manque de reconnaissance. C'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas reconnu dans la qualité de ce qu'on fait, dans la place qu'on prend dans le projet qu'on a. Et là, le directeur de la thèse, évidemment, et les collègues ont un rôle majeur à jouer. Et ça, c'est un facteur qui est indépendant du temps passé au travail.
Oui. Et ça rejoint d'ailleurs parce que le burn-out aussi, on en parle beaucoup dans le ministère. Et ça rejoint une des choses pour les pasteurs, c'est un manque de reconnaissance qui fait qu'on a beaucoup dans le burn-out parce que les résultats aussi sont difficiles à quantifier. Et ça peut être une des choses aussi, on cherche et parfois on trouve pas grand-chose. Et ça nous pousse à essayer de faire plus, mais après, c'est vrai que quand on est épuisé, on travaille de façon moins efficace aussi. Ouais. C'est aussi à connaître un peu nos limites.
Il ne faut pas être un peu plus précis sur le sens du mot reconnaissance. Il y a trois façons de comprendre le mot reconnaissance. Il y a la reconnaissance sur le plan identitaire. Je vois un objet, je vois quelqu'un, je le reconnais. Ça veut dire que j'ai en mémoire déjà le souvenir de ce qu'il est, et je fais la correspondance avec ce que je suis en train de voir. Ça, c'est la reconnaissance sur le plan identitaire. Ensuite, il y a la reconnaissance comme un merci. C'est exprimer sa reconnaissance. Et enfin, il y a la reconnaissance comme aveu. Un aveu de responsabilité. Je reconnais ma responsabilité dans telle ou telle chose. Voilà. Donc, des trois sens-là, le manque de reconnaissance impliqué dans la genèse du burn-out, c'est plutôt le sens numéro 2.
Oui, je ne suis pas apprécié.
Oui, c'est ça. Pas apprécié à sa juste valeur.
Ouais. Ouais.
Et il y a un équivalent, au temps du Moyen-Âge en particulier, et chez les théologiens et ceux qui s'engageaient dans les communautés religieuses, du burn-out moderne, qui est l'acédie. Bon, c'est un terme un peu technique, mais qui désigne ces gens qui étaient engagés, qui avaient engagé leur vie dans une communauté, par exemple, ou un ordre en particulier, et pouvait venir un temps où ils ne trouvaient absolument plus le sens et la justification de ce qu'ils faisaient.
Les directeurs de thèse ont une grande responsabilité dans ça, hein, parce que, et puis, être sensible à la que le temps de travail ou l'investissement en force physique et mentale ne sont pas forcément corrélés avec la qualité du travail. Oui. Moi, j'ai par exemple un doctorant qui n'est pas très bon en méthodologie, mais il est super sérieux, il travaille 15 heures par jour, il travaille, il lit 10 livres, il s'épuise. Et quand je le recadre, quand je lui dis non, c'est tout ça, c'est hors sujet, vous allez m'enlever ça. Mais madame, j'ai beaucoup travaillé. Mais madame, j'ai mis trois mois à faire ça. Il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher. Et lui, il va faire un burn-out si on le laisse, parce que c'est un torrent d'énergie entièrement sur son truc. Il est là toute la semaine, de 8h du matin à la fermeture. Voilà. Et on ne peut pas l'arrêter. Mmh. Et ça, c'est très difficile parce qu'il est enfermé dans son truc. Il est persuadé que c'est ça, être un bon étudiant. Mmh. Être sérieux, c'est mettre toutes ses forces. Mais pas forcément. Jouer de la guitare pendant une heure, ça fait partie de la soupape de sécurité. Donc, vous voyez, quelquefois, les étudiants, ils se mettent aussi des fardeaux inutiles. Ouais. Parce qu'il y a une image du bon doctorant, que le bon doctorant, c'est celui qui lit tous les livres sur le sujet, qui passe tout son temps, qui fait rien d'autre, qui regarde pas par la fenêtre.
Oui, mais c'est aussi, je suis d'accord que ça vient de nous, comme doctorant, qu'on voit mal, mais c'est aussi souvent ce qui nous est reflété. Mais ma directrice de thèse, elle nous dit souvent, à mon époque, on restait tout le temps au labo, moi je n'avais pas de vacances, moi je n'étais pas payée, et aussi mon autre chef, elle disait aussi, oui, à notre époque, les dessins, ils restaient jusqu'à 17h, ils commençaient leur manip après que ceux qui ont un poste fixe ont fini leur expérience sur les machines. Et je dis, ben, heureusement, la loi est passée par là. Je dis comme ça. Ouais. Mais c'est donc, même s'ils ne s'exigent pas forcément ça de nous, mais ils nous mettent quand même sur le tour de miroir. Et moi, je devais faire toute ma culture à la maison, au labo. Je faisais que mes manips. On entend tout le temps des choses comme ça et ça a quand même un impact fort.
Bien sûr, c'est un modèle qui t'écrase.
Ouais. Moi, mon inconvénient de thèse, lui, il a des petits enfants, il couche des petits enfants, et après, il travaille depuis 21h à minuit, quelque chose comme ça.
En lisant les articles.
Comment?
En lisant les articles à la maison.
Je ne sais pas quoi. Et moi, je suis comme, ok, moi, je suis à GBU, je suis à GBU soir. Moi, j'ai fait beaucoup de autres choses, mais parfois, je pense, peut-être que je peux travailler un peu plus parce que je travaille beaucoup. Je travaille pour toi. Mais et aussi, c'est pas moi, en Colombie, quand j'étais en économie, il y avait deux amis qui n'étaient pas des doctorants, qui étaient des assistants de recherche. Et une fois, le chef les a demandé combien de heures elle dormait chaque jour. Alors, ils ont dit, on dort 7 heures ou 6 heures. Il a dit, il faut que vous dormez moins parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour travailler.
Oui.
Et là aussi, je crois que peut-être. Oui, parfois, c'est la pression, ça vient des autres endroits.
Ouais.
Et là, par exemple, mes deux amis ont eu des problèmes de santé après. Et c'est évident, la cause.
Oui. Oui, qui nous amène à, en fait, donc ça vient, donc, comme je dis, dans le ministère, on parle beaucoup de cette question de burn-out. Et le fait que le problème, c'est qu'on oublie qu'on est des êtres humains, en fait. On a un corps physique, on ne peut pas faire comme on n'est pas limité, on ne peut pas se passer de notre corps et des besoins basiques, comme on a parlé hier soir. Hein. C'est une besoin physiologique de dormir. Et effectivement, le manque de sommeil, ça peut avoir des conséquences assez radicales et dramatiques. Il ne faut pas jouer à ça. Ma sœur, elle a fait une fatigue chronique pendant 9 ans à cause de manque de sommeil, de continuer de travailler malade et parce qu'elle mangeait mal, je pense aussi, parce qu'elle n'était pas dans la recherche, mais elle était en fait, elle travaille pour dans l'industrie chimique. Et il poussait à fond tous les cadres, et elle ne savait pas dire non. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, cette question de résistance aussi, ça voit des non. Quand c'est trop, et quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et il n'y a rien qui vaut qu'on s'épuise jusqu'à ce point-là aussi. C'est aussi, et d'avoir les personnes autour pour dire, Il faut que tu te reposes, il faut que tu fais autre chose. Et aussi se poser, même pour, si on n'est pas actuellement dans une situation de dire, même si on pense que tu vas bien maintenant, je pense que même il faut avoir des bonnes habitudes et essayer de garder des bonnes habitudes pour l'avenir. Et donc, à poser des questions, j'ai quelques questions à vous faire réfléchir, vous pouvez juste y penser là. Donc déjà, est-ce que vous mangez bien et régulièrement? Pratiquez-vous le sport? Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous buvez beaucoup de café, de thé ou de Red Bull? Est-ce que vous faites les choses pour vous détendre, pour vous faire plaisir? Est-ce que vous donnez du temps à vos amis et à la famille? Et est-ce que vous observez le sabbat, le sens, pas forcément le dimanche, mais est-ce que vous prenez un jour de repos par semaine? Parce que ces choses-là, le sabbat est là parce qu'on a besoin de se reposer. Alors je dis ça pour, en tant que quelqu'un, en tant que femme de pasteur, en fait, quand on est couple pastoral, c'est très difficile de se reposer le dimanche parce que c'est un jour de travail, mais il faut être très discipliné pour garder ce jour-là. Donc je pose ces questions à moi-même aussi. Et bon, Jérémy et Johan ne sont pas là, mais ça vaut pour tous ces types de travail où on a des heures très longues, beaucoup de stress. Il faut vraiment veiller à notre personne, parce qu'on est les humains, on est les êtres humains et on a des limites. Et en tant que chrétien, on reconnaît ces limites parce qu'on est des créatures. On n'est pas Dieu. Et Dieu nous a créés avec ses limites.
Je crois que la différence entre la thèse et un concours. Quand on prépare un concours, on peut faire ça. On peut boire du Red Bull parce que ça dure un mois.
Ouais.
Mais la thèse, ça dure 3 ans. Et c'est pas du tout pareil, quoi.
Ouais. Parce qu'on ne peut pas maintenir...
On peut pas maintenir une cadence. Personne ne doit maintenir une cadence de combat comme ça pendant 3 ans. C'est pas possible.
Ouais.
Parce qu'on a tous passé des concours, voilà, pendant un mois, 2 semaines. On est à fond sur le truc, c'est pas grave. Parce que ça, on reprend des vacances. Alors que là, c'est du long terme. Et comme vous l'avez souligné, les universités maintenant nous pressent pour qu'on limite les préparations à 3 ans, 4 ans au maximum, après c'est fini. Donc on ne peut pas dire on va prolonger. Du coup, il faut que ce soit 3 ans en mode marathon. Quoi, hein.
Oui, par course.
Mode marathon, course à long terme.
À longue distance,
pas longue distance.
Pas le sprint,
voilà.
Ça, pas un sprint.
Marathon sur le rythme d'un sprint.
Non.
Non, mais on peut pas. Il faut se rendre compte aussi.
Ça n'est que possible. Une thèse, hein. C'est pas l'encyclopédia universaliste que vous disiez.
Oui.
Je veux dire par là que c'est l'écho à ce que la pression qu'a subie.
Oui.
Laura, quand elle a entendu. Il faut moins dormir.
Oui.
Alors là, il y a quelque chose qui devient de plus en plus actuel et qui fait monter la thématique de la fatigue dans le milieu, en tout cas philosophique. Ça, il y a des publications qui sortent dans des livres. Eric Fiat a écrit une ode à la fatigue. Il y a quelque chose d'encore plus qui s'ajoute à l'injonction de dépasser ses limites. Ce quelque chose qui s'ajoute, c'est vous devez faire de votre vie, je disais ce matin, une œuvre d'art, en tout cas le mieux possible, et vous devez pour ça trouver les ressources et la maîtrise. Et dans ce cadre-là, le sommeil devient le modèle et l'exemple de la non-maîtrise, puisque s'il y a un temps de notre vie où on perd toute maîtrise, c'est celui pendant lequel on a les yeux fermés. On n'entend rien si on dort bien et on est susceptible d'être attaqué et on peut profiter de nous, même sans dramatiser les choses. C'est une situation où on est véritablement en vulnérabilité. Et on ne s'en rend pas trop compte, c'est pourtant en même temps une situation où on recharge complètement les accus sans y être pour rien en dehors du fait de se laisser faire, d'être complètement passif.
Oui.
En sorte que le matin, on se réveille rechargé si on a bien dormi. Autrement, non. Eh bien, ce temps-là, il est considéré maintenant comme, puisqu'il est hors maîtrise, il faut le raccourcir au maximum, le but étant de maîtriser au maximum les choses pour faire de sa vie une œuvre d'art.
Oui, de faire au maximum. Ah, et donc, il faut dormir moins pour pouvoir faire
et
plus.
Dans ce cadre-là, le sommeil est du temps perdu, carrément.
Ouais. Mais je veux dire, à côté de l'université, le monde de l'entreprise est pire.
Oui,
bien,
oui.
Bien, bien,
voilà.
Oui, c'est ça, c'est un phénomène.
Donc, ça, c'est, voilà, c'est une, mais c'est une vérité pour, je pense, tous les travails.
C'est sociétal.
Moi, j'ai un fils qui est consultant, ben, pendant des années, oui. Il sort à 3h du matin.
Oui.
3h du matin.
Oui.
Bon. Et là, il a 30 ans, ça y est, il est déjà au bout du rouleau.
Oui,
mais tous, ils font tous ça. Au bout d'un moment, ils démissionnent.
Oui.
Donc, c'est pas. Je crois pas que ce soit ça que Dieu nous demande. Hein.
Ben, non. Évidemment. C'est radicalement. Alors, ben, ça fait partie ce matin là, des paradigmes qui étaient radicalement anti-bibliques ou évangéliques.
Mais en même temps, on est dans le monde.
Oui, je pense que c'est compliqué.
Très compliqué. Hein,
quand on est en thèse, en plus, on est en dernier rang. On va dire comme ça. C'est difficile de résister parce qu'ils sont nuls. On n'a aucun pouvoir. On a souvent le sentiment.
On considère moins que les techniciens. Et ça,
oui, et on considère.
C'est des bébés d'un an.
Mais on... souvent aussi, c'est. On... Et je pense
c'est
avec une certaine raison.
Il faut voir le long terme.
Mais on a l'impression que le directeur est tout pouvoir. Donc, effectivement. Mais bon, le directeur n'a pas tout pouvoir parce que Dieu a tout pouvoir. Donc, ça revient à ce qu'on avait dit ce matin, c'est cette confiance. On peut dormir parce que Dieu, il travaille pendant notre sommeil, comme on a entendu hier soir, dans le psaume 127. On peut se reposer sur lui pour l'avenir. Et même et face à ces injustices, c'est plus sereinement là que Dieu nous protège et qu'on se rappelle régulièrement qu'on a besoin de mettre notre confiance en lui. Et qu'il est plus puissant même que notre chef. Qui ramène donc un des derniers points que je voulais relever de ce livre, être prêt à changer. Donc, de méthode, on a souvent besoin de changer de méthode de travail si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas la bonne méthode ou la méthode d'analyse. Si la situation dans un groupe est vraiment, vraiment néfaste, peut-être changer de groupe ou au moins avoir un autre référent. À mon époque, à l'université, il y avait le directeur de thèse et il y avait quand même un autre référent, si jamais ça allait vraiment très mal. Pouvoir parler avec quelqu'un d'autre. C'est quand même très rare de devoir changer de groupe, mais il ne faut pas souffrir en silence non plus si ça va très très mal.
Ça existe, c'est nouveau ça. Donc les universités ont institué, vous avez ça, les comités de thèse. Comités de thèse une fois par an, c'est-à-dire c'est d'autres gens.
Oui.
Et on discute si ça va avec le directeur, si vous avez un bon rythme, on surveille un peu, mais fraternellement. Pour voir si vous allez bien.
Ça, c'est bien, ça.
Et dans mon école doctorale, il y a même chaque année un entretien personnel avec le directeur de l'école doctorale qui nous convoque et on a 15 minutes avec lui et avec la secrétaire et avec un autre pour. Il pose des questions comme ça, est-ce que tout va bien? Aussi, scientifiquement, est-ce que vous avancez? Donc, il y a les deux comités de contrôle un peu. Au moins, mon comité de thèse, ils ont plutôt posé que des questions scientifiques, pas trop personnelles, comment je vais moi, plutôt comment j'avance, quoi, les résultats. Mais oui, j'ai entendu aussi que normalement, ils sont là aussi pour.
C'est dans la feuille de poste, hein, le comité de thèse. On ne va pas dire est-ce que vous disputez avec votre directeur de thèse, mais le doctorant doit savoir que c'est là qu'il faut le dire. Si il abuse, de quelque manière que ce soit, s'il abuse de vous, c'est là qu'il faut le dire. Puis c'est pas non plus la fin du monde si on change de directeur de thèse.
Oui.
Je pense aussi qu'il faut, ça dépend de directeur de thèse, mais il faut de la. Il faut aussi de parler au directeur aussi des choses qui ne va pas. J'ai fait ça au bout de la première année. J'avais pas vraiment beaucoup de retours de ma directrice de thèse. Elle me disait pas c'est bien ou c'est mal, c'est ce que je faisais. Et donc, je suis allée la voir, je dis oui, j'ai besoin de retour en fait. J'ai besoin de savoir est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Et donc, elle a été ouverte de me dire, mais après, elle m'a dit aussi, Bon, elle n'est pas ce genre de personne, mais quand ça va bien, elle ne dit rien.
Ouais.
Mais moi, ça ne m'aide pas beaucoup, quoi. Mm-hmm. Donc là, je ressentais à nouveau le besoin de lui parler, mais je n'ai pas encore osé de redemander. Alors, est-ce qu'on peut faire un point à ce moment-là?
Bah, si, tu dois demander. Parce que il est là pour ça. Mais il ne peut pas non plus aller vous chercher toutes les. Vous dire alors, tu vas bien. Non, non. C'est au doctorant de dire est-ce que je peux avoir un rendez-vous? J'ai besoin de vous voir tous les temps. Parce que le rythme, c'est différent selon les doctorants. Donc, on ne peut pas imposer venir à mon bureau tous les deux mois, on va voir où, comment vous allez. Ça, non.
Donc, on peut aussi à un moment donné être prêt à changer de métier. Je trouvais ça vraiment intéressant dans ce livre. Il disait qu'il faut savoir quand il faut arrêter la recherche, quand les portes se ferment, être prêt à changer et avoir les attentes réalistes pour ne pas tout sacrifier pour un rêve qui est juste irréalisable. Voilà, à savoir qu'il y a un moment de changer et on peut quitter la recherche. Comme on a dit tout à l'heure, ouais, c'est normal en fait de changer. Moi, quand j'ai commencé à être coordinatrice du réseau des scientifiques évangéliques, on avait souvent les orateurs qui venaient chez nous avant la journée. Et souvent, j'avais un sentiment que je n'étais pas légitime parce que j'avais arrêté les recherches. Et pour moi, c'était vraiment un moment libérateur quand j'avais une autre personne qui était là, qui m'avait dit « Mais c'est normal, de toute façon, la recherche est une pyramide, pas tout le monde va continuer. Voilà, c'est pas dramatique si on fait une thèse et après on change et on fait, soit on part dans l'industrie, soit on va dans l'enseignement, soit on fait toute autre chose. Et ce n'est pas une perte de temps. Ça ne veut pas dire que la thèse ne vaut rien juste parce qu'on n'a pas continué dans la recherche. Souvent, c'est nécessaire pour d'autres carrières, déjà, et qui sont autant aussi bien. Et même si on change complètement, ou on arrête pour avoir les enfants, comme j'ai fait, ce qu'on apprend sur nous, sur Dieu, et les expériences, la vie, pendant la thèse, sont très utiles. Donc, je voulais juste qu'on parle on n'avait pas parlé ce matin de la futilité. Pendant mes derniers mois de recherche, je lisais le livre des Ecclésiastes et en fait, cela m'a beaucoup aidé à changer ma perspective. Bon, j'étais à la fin de ma carrière de recherche. J'avais décidé de quitter pour donc fonder une famille et je ne voulais pas faire les deux. Et donc, je savais que c'était pour moi une décision à sens unique. Je ne pouvais jamais retourner. Et j'étais franchement déçue, frustrée par la recherche. J'étais chercheur, je cherchais sans rien trouver. Donc à quoi sert ces années de thèse et de post-doc, de recherche, si finalement on va rater pour X raisons? Quel sens donner à tout ce temps de travail, de lecture, de recherche, des manips, des heures très longues, si on fait le bilan et on constate qu'on n'a pas vraiment contribué grande chose pour avancer la recherche, c'est le sentiment que j'ai eu. Hein. Est-ce que c'est une perte de temps? Alors la réponse à cette question dépend vraiment de notre perspective, de notre réponse à la grande question à quoi sert notre vie. Donc pour beaucoup, la recherche est une vocation qui donne un sens à la vie, une raison d'exister. Moi je trouve qu'il faut faire attention avec ce mot de vocation parce que si c'est vocation dans le sens on est prêt à tout accepter, peut-être pas, mais je sais d'autres, c'est une vocation dans le sens, s'il met vraiment à cœur et c'est pour rendre gloire à Dieu. Donc, on y parlera tout à l'heure. Mais attention à notre façon de la voir. Mais en tant que chrétien, notre première vocation et notre raison d'être, c'est de glorifier Dieu, de l'aimer, de servir. Donc, les résultats de notre recherche ne sont pas plus importants que notre façon de vivre notre foi pendant la recherche. Nous pouvons ne rien trouver, ne rien publier, tout en ayant beaucoup travaillé et vraiment fait de notre mieux, et donc quitter la recherche, mais cela ne sera pas pour rien. Dieu nous apprend beaucoup de choses, et même pendant ces années difficiles, c'est les dessins qui nous serviront pour notre vie. Personnellement, je trouve que les frustrations de la recherche m'ont préparé pour les frustrations de la ministère, car dans le ministère, on manque souvent des résultats concrets aussi. Et malgré les heures consacrées au ministère, au ministère chrétien, je veux dire, comme plein. On va pas arrêter sur la vanité des vanités, c'est un peu déprimant. Donc je vous laisse un dernier verset, un verset qui était important pour moi. Bon, je peux vous l'aider dans le contexte, Jérémie, c'était une prophétie pour la nation, le reste des Israélites qui allaient revenir. Mais je pense que ça exprime aussi la bonté de Dieu à notre égard, qui fait concourir toutes choses pour notre bien, même si ce n'est pas le plan qu'on avait prévenu. Dieu, il a des projets en notre faveur, des projets de paix, non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Voilà. Et je pense que c'est maintenant le temps de témoignage, si je ne me trompe pas.
Oui, échange, témoignage, si on veut. Si quelqu'un veut partager, comment il a mis sa thèse, ou... qu'est-ce que tu fais?
Où on peut rebondir sur ce qu'on a dit aussi, hein, sur ce que vous avez invité. Tout est partagé.
Dans l'évaluation, là, c'est pessimiste. Donc, parce que tu réduis la thèse à des résultats extérieurs. Alors que la thèse a déjà un résultat sur ta personnalité. Et en effet, le travail de la thèse, et pas le contenu de la thèse, mais le travail pour la thèse, vous modèle déjà. De savoir lire vite, de savoir faire de la synthèse de choses, de savoir être autonome, de savoir travailler en équipe, même s'il n'y a pas de résultat, de contenu. Et ça, c'est quand même un capital extrêmement précieux, vendable sur le plan professionnel, mais aussi qu'on peut valoriser dans sa vie personnelle, dans la vie de son couple, de son église, de sa vie tout court, quoi, la vie en entier. Donc moi je dirais que même s'il n'y a pas de résultat scientifique, il y a toujours un résultat après avoir soutenu une thèse.
Il y a un verset qui dit « Aucun travail est vain dans le Seigneur ». Et ça, ça me rassure beaucoup justement quand je suis devant une manip où je travaille longtemps et ce n'est rien, je sais, ok, devant le Seigneur, ce n'est pas pour rien que je fais ça. Même si le résultat est nul, mais moi, ça faisait forcément quelque chose avec moi, ce n'était pas en vain.
Peut-être que ça t'apprend à gérer la frustration du
rôle. Ou et j'ai appris mieux à manipuler peut-être. Il y a plein de choses. Je me souviens aussi l'année dernière, il y avait un maître de conférence. Il disait toutes les choses qui sont demandées dans la thèse, c'est aussi Dieu qui nous les demande dans la sanctification, comme la persévérance, la patience. Tout ça, ce qu'on acquiert comme compétence. C'est ce que Dieu nous demande.
Et ça, on peut le réinvestir ailleurs, dans le ministère ou dans autre chose.
Oui.
Au service de Dieu, même si on n'a pas de poste universitaire derrière, ou de poste professionnel en lien avec ça. Donc, de toute façon, c'est une bonne étape. Vous avez raconté.
une expérience. Avant la thèse, j'avais fait un stage, pareil, sur Lyon. Et moi, dans ma formation, c'était un peu le style que tu dis, où on avait les examens et les cours la matinée, le soir et la nuit, c'était pour travailler sur BTP, c'est un peu des UET. Du coup, il fallait que tu rentres des projets, des BTP que tu faisais dans ton temps perso. Et j'étais dans une dynamique où je bossais tout le temps. Donc, je restais la nuit à l'école, je crois que ça n'avait pas de légal. Mais... Du coup, tout le temps, comme ça. Et du coup, quand je suis venu ici, je continuais comme ça, parce qu'en plus, il fallait rattraper, je parlais pas le français, mais je parlais à peine. J'étais plus automaticien qu'autre chose, électronicien. J'ai voulu faire de la mécanique et de l'électrotech. Donc, j'étais complètement à côté de la plaque au début. Puis, il m'a fallu investir beaucoup de temps. Je crois que dans les stages, tout ça c'est accumulé. J'avais un stage, ça donne beaucoup plus de liberté que les cadres des études dans lesquelles c'est le prof un peu qui marque les rythmes. Le stage, c'est soirées qui se gèrent. Et là, c'est tout ce temps-là que je passais à ne faire que bosser, ça c'est un peu revenu, il m'est tombé dessus. Du coup, je faisais que ça. J'arrivais relativement tôt le matin et je finissais hyper tard, je faisais que bosser et je voulais vraiment que le truc marche. Passer des heures, je m'arrêtais pas. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, c'était à continuer. Comment je fais marcher ce truc, qu'est-ce qu'il se faut. Pendant la nuit, j'ai rêvé des équations, je voyais les voitures, comment je fais. J'ai rêvé que ça marchait, je m'ai réveillé, ah non, ça marche pas. Et du coup, je suis rentré un peu dans cette dynamique. Du coup, pour chercher un boulot, je trouvais pas le temps parce que j'étais tout le temps en train d'essayer de faire que le truc marche. Et du coup, même pour déménager, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, à la dernière minute. Il y a un ami qui m'a donné un coup de main, mais sinon, c'était. Après, ça sortait de mon contrôle, mais je finissais un mardi, je passais mon projet de fin d'études. Mercredi, je suis à Paris. Mercredi, je suis revenu sur Orléans. Il fallait que je nettoie mon appart. Je prépare les camions parce que le jeudi, je faisais l'état de lieu. C'était vraiment la période hyper folle. Bon, j'ai eu mon diplôme, Dieu merci et tout ça. Et quand j'ai postulé pour la thèse, je me suis rendu compte qu'en fait, tu ne demandes jamais les notes que tu as eues sur ce truc-là. Et c'est une partie de ta vie où, bon, bref, j'ai quand même appris des choses, c'était intéressant. Mais quand je prends du recul, il y a quand même une partie de ma vie dans cette période-là qui est hyper intéressante, qui est hyper chouette, je n'ai pas profité. Et je me dis, du coup, j'ai été l'ecclésiaste dans cette période-là. Et c'est vrai que ça te plonge le moral, mais ça pique, mais ça fait du bien.
Ouais.
J'ai réalisé ça, en fait. Déjà, la vie n'est pas que ça. Du coup, c'est un peu l'approche que j'ai prise dans ma tête. Il y a beaucoup. On est dans un âge dans lequel il y a beaucoup de choses à explorer autres que notre travail. Déjà, il y a les relations amoureuses. On s'est formé une vision du monde. C'est le moment où la personne que nous allons être, nous sommes en train de définir ça. Du coup, il y a plus d'enjeux que juste les résultats de cette expérience-là. Et en plus, si on se met dans cette attitude-là, on ne va pas être efficace, bosser tout le temps, parce qu'on est limité, on a un corps qui a des limites, qui a des besoins, qu'il faut satisfaire. Et je crois que ça demande beaucoup d'humilité de se dire, ouais, j'ai des limites, je vais me mettre dans un état dans lequel je peux tenir dans le temps, c'est 3 ans, c'est pas une seule année. Et en même temps, quand on se dit, j'ai quand même un papa, un père qui s'occupe de moi. C'est pas parce que je veux, mais ça demande beaucoup de fois, je pense, de se dire, je vais faire mon possible. Et le reste, c'est lui qui prend la responsabilité. Parce qu'après, quand on fait ça, c'est hyper libérateur parce que quand on prend du temps pour soi, c'est important aussi. C'est génial, c'est l'étape de la vie où On peut explorer des trucs, on peut visiter des endroits, aller à des concerts, machin. Et aussi, on peut kiffer sa thèse, parce que ça, c'est génial aussi. C'est une opportunité que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est d'explorer un truc, aller creuser la science. Et quand je parlais de prendre des risques, c'est ça, en fait. C'est... Un choix que je pouvais faire, c'est faire un truc bien carré, bien aligné, dans le... ce qui s'est fait dans l'état de l'art. Et mon chef, on a choisi un truc qui est assez séparé, qui peut ne pas marcher. Mais justement, c'est... je kiffe ce truc. C'est génial parce que c'est un truc, voilà, on fonce dedans. Et je me dis, ouais. C'est pas facile tous les jours, mais je me dis, je joue le jeu, je vais à fond sur ce truc-là. Si Dieu veut que ça marche, ça va marcher. Et sinon, bah, il a des projets pour moi. Et ça va pas être perdu parce que ça m'efforme aussi. Ouais, je trouve que c'est difficile de lâcher prise, mais il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre.
Et là, tu regrettes ce que tu as fait, la tranche de vie où tu as tout investi comme ça?
Bah, ça m'a pris énormément de choses, côté technique, côté humain. Il y a aussi des anecdotes, je ne sais pas, je suis exagéré sur les disciplines. Je me souviens quand on était au labo, il y avait quelqu'un qui disait « on se fait un FIFA !» Là, tout le monde se mettait en mode PlayStation. Et du coup, il y a des anecdotes quand même, c'était chouette. Mais je me dis, ouais, j'ai quand même, je pense, j'ai dégradé un peu ma santé. C'est une partie de ma vie et ça m'a formé beaucoup, ça m'a beaucoup formé. Mais en même temps, ouais, je crois que j'ai laissé de côté d'autres parties de ma vie qu'il faut aussi explorer. Ouais, ça m'a beaucoup appris, je regrette pas, mais...
A été un peu plus loin que...
Je kiffe un peu plus de ce que je fais en ce moment. C'est un peu... Pendant ma thèse, je me donne à fond, je joue le jeu. Mais après, je m'accorde aussi des espaces pour vivre ma jeunesse. Ouais.
Mais la finalité, c'est aussi le prendre conscience qu'on est dans un... On est une partie de toute une chaîne de décisions. Par exemple, tu mets au point la voiture électrique. Ben, je sais pas, le cours du pétrole baisse, la politique de la France change, le PDG de Peugeot abandonne, et paf, un beau jour, il peut dire, la voiture électrique, on oublie, on fait autre chose. Et ce jour-là, ton travail, votre travail, ben, sera oublié. Comment vous allez vivre ça? Tu vois, c'est, la reconnaissance et la reconnaissance sociale aussi. Puis on est dans un... On va faire avancer l'humanité, waouh, super! On fait un petit segment, mais il y a aussi d'autres décideurs au-dessus de nous. Et ça, il faut être prêt psychologiquement que même si tes résultats sont bons, peut-être que l'industrie va renoncer à tout ce que tu as fait. Là, si tu n'es pas prêt, tu vas le prendre mal. Hein. Il y a des gens qui font des dépressions avec ça. Hein. Ou, je sais pas, qui vendent leur entreprise, puis celui qui a racheté, il bousille tout ce qu'ils ont fait. Je connais quelqu'un comme ça, il est tombé malade.
Ouais. Parce qu'ils sont tellement investis dedans. C'est voilà. Comme si c'est eux-mêmes qui sont...
C'est eux-mêmes. Et c'est normal aussi, hein, quand tu travailles, tu as des beaux résultats. Tu vois, ça va servir.
Ce qui peut aussi arriver quand on ne nous croit pas, hein, si on a bien travaillé. Ouais, moi, je travaille dans un institut de toxicologie alimentaire, donc on est un peu contre, parfois, on est dirigé contre l'industrie agroalimentaire. Hein, donc, il y a parfois des. Vraiment, où la politique est, comment on appelle ça, ceux qui font le lobby, qui dégradent notre travail pour ne pas pouvoir devoir changer leurs choses. Et donc, ça, je pense, ça fait mal aussi. Donc, je le vois pour ma chef. Elle a prouvé quelque chose qui est toxique. Et en fait, après, ils ont publié un papier européen pour dire que son travail était nul. Et que ce n'était pas bien fait. Et donc, on n'a pas besoin de changer. Mmh. Et donc, je pense que ça fait mal aussi.
Ah, oui, c'est ça que j'appelle. On est dans un environnement. Donc, tout ne dépend pas de nous.
Pour moi, le problème, c'est bah, parfois je vis là, que je fais le test dans les voitures électriques, mais je passe. Bah, pour moi, le problème, c'est que je passe beaucoup de temps dans le lit. Et c'est comme on sait, les moments où je vais bah, partager ma foi avec les amis du labo. On a que les déjeuners, la pause café, bah, c'est pas suffisant. Et parfois je dis, mais Seigneur, ok, mais ok, je fais des choses avec des voitures électriques, je fais des algorithmes, mais ça ne sert à rien. Mm-hmm. Et pour moi, c'est un peu comme ça les problèmes. Donc, que je sais que je suis là parce que vous, que je sois là, mais parfois ce n'est pas aussi évident de savoir que j'ai fait quelque chose.
Mm. C'était une des choses qui me frustrait, je pense, qui a rajouté à ma frustration pendant mes années de post-doc, c'est que je n'avais pas les mêmes occasions de partager ma foi que j'avais eu quand je faisais ma thèse. Donc, je pense qu'une partie, c'est nos attentes aussi. Mais aussi, je pense que ça revient aussi à ce qu'on avait dit, que Dieu s'intéresse aussi à notre travail, pas seulement notre témoignage, parce que je sais que moi j'étais très fixée là-dessus aussi, c'était vraiment mon objectif aussi, c'était de pouvoir partager ma foi et j'ai eu pas beaucoup d'occasions, mais je pense aussi que je n'ai pas prêté assez attention à ma façon de me comporter, j'ai essayé, mais je pense vraiment à croire que Dieu il s'intéresse à ce qu'on fait et que la thèse en soi c'est une bonne chose, c'est bien de chercher, c'est Dieu qui a créé tout ça, il veut qu'on utilise notre cerveau, tout ça c'est une bonne chose. Et d'avoir peut-être un peu de recul pour notre témoignage et faire confiance que Dieu va nous donner l'occasion ou pas, mais c'est lui qui maîtrise aussi un peu ça. Et moi je pense, et ça je dis ça avec, peut-être aussi avec des années passées, toutes ces années entre temps, en fait si je cultive vraiment ma relation avec Dieu, et si j'essaie vraiment de mettre tout ça en pratique, il y aura des occasions. Et quand les gens ils sont intéressés, ou quand il y a quelque chose qui leur arrive, hein, quand il y a une catastrophe qui arrive, ils vont savoir à qui il faut venir pour parler. Surtout pour parler de la mort. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler de ça. Et si les gens sachent, ils savent que tu es chrétienne, souvent, ils vont te parler. Oui, ils vont venir te voir. Mais il faut un peu attendre aussi ces occasions. Et essayer de, pareil, faire confiance à Dieu pour ça. Parce que je sais, pour moi, c'était une vraie source de frustration aussi. Et le fait que je ne trouvais pas grand-chose, et le fait que je n'avais pas vraiment les occasions de terminer, je me dis, bah, à quoi tout ça sert? Mais c'était trop réducteur, comme on a dit. Il y a autre chose qu'on apprend, il y a autre chose, Dieu sert de ça pour nous apprendre beaucoup d'autres choses. Donc, c'est
ouais, un peu la confiance aussi. Enfin, pas une réponse, mais une suggestion. C'est que être doctorant et faire une thèse, c'est un tremplin vers quelque chose d'autre, vers d'autres milieux, d'autres statuts, autres. Et que peut-être tu dis rien en même temps avec ces gens-là, mais Dieu te prépare pour avoir des responsabilités plus grandes, pour témoigner dans un autre endroit. Et là, il faut être patient, parce que les projets, justement, toi tu vois tes projets à un an, et Dieu voit les projets à 20 ans, à 30 ans. Hein. Ça, c'est avec le recul seulement, tu te retournes, tu te dis, ah, ce que j'ai fait il y a 20 ans, ça me sert maintenant. Mm. Qui l'eût cru, comme on dit. Même toi, tu ne dis pas, tu dis, ouais, Seigneur, non, tu vois loin. Hein. Enfin, c'est seulement quand on est un peu vieux qu'on peut dire ça. Donc voilà, il faut prendre confiance qu'on accumule et puis on va s'en servir parce que Dieu investit en toi. Il investit des qualités, des compétences, puis après, hop, un autre jour, il va te mettre en situation où tu vas les mobiliser.
On pourrait peut-être terminer par la prière.